RCF.
Vous êtes bien sur RCF Calvados Manche et nous écoutons désormais votre émission Soins et Spiritualité, une émission proposée par Marie Carlo et Vincent Fouque du Parc.
RCF.
Voilà, je suis avec beaucoup de plaisir en présence du père Philippe Dauté. Le père Philippe Dauté est prêtre orthodoxe du patriarcat de Roumanie. Il anime depuis 30 ans, avec son épouse, le centre d'études et de prières de Sainte-Croix, qui est en Dordogne. Le père Philippe Dauté est également délégué pour l'Église orthodoxe à l'écuménisme pour la région du Sud-Ouest. Alors, avec son épouse, il anime des retraites, des sessions sur la tradition philocalique des Pères du Désert et des colloques transdisciplinaire sur de grands sujets du monde d'aujourd'hui. Donc il y a eu des sujets religion et science, religion et santé, religion et économie, religion et également écologie, qui sont des grands thèmes d'actualité et on le sait d'importance. Le père Philippe est auteur de plusieurs ouvrages. Le premier, « Chemin de l'homme » selon la Bible, aux éditions des Clés de Bruyère, qui est édité en 2009. Un deuxième livre, Si tu veux entrer dans la vie, Thérapie de croissance spirituelle, aux éditions Nouvelle Cité, édité en 2013. Et le troisième livre, Eros et liberté, clé pour une mutation spirituelle, édition Nouvelle Cité, édité en 2016. Alors, vraiment, on a beaucoup de chance dans la mesure où le père Dauté a accepté d'être avec nous pendant ces trois prochaines semaines, intervenant sur trois thèmes complémentaires. Le premier, l'anthropologie, cette semaine. Le deuxième, respect de la personne dans le soin. Et puis, pour la troisième semaine, ça sera le sens de la maladie et de la guérison. Donc, vous avez compris que on va être parfaitement en phase avec nos émissions Soins et Spiritualité, grâce à la fois la vocation sacerdotale du père Philippe Dauté, mais également aussi à son implication de longue date auprès des personnes âgées et dans le monde des soins palliatifs. Bonjour père.
Bonjour.
Alors voilà, nous sommes tous les deux avec beaucoup de plaisir et nous avions convenu qu'il était important aujourd'hui de redéfinir la notion de l'anthropologie.
Oui, je crois que c'est vraiment important de redéfinir la notion anthropologique. Parce que ce que l'on voit ici en Occident, c'est que nous avons souvent ramené l'homme à sa dimension biologique. C'est clair que l'homme est aussi un être biologique, mais pas que. Il est un être qui a effectivement est dans un corps et qui fonctionne avec des organes et des réalités biologiques. Et souvent, à l'hôpital, eh bien, il est traité en tant que sujet à maladie. Et il faut traiter la dimension biologique. Mais on sait très bien que l'être humain est aussi un être sensible. Et l'être sensible, il est quelqu'un qui a une résonance sur un autre plan de réalité, qui n'est pas que biologique, mais qui est la dimension de la psyché. Or, qu'est-ce que la psyché ? C'est tout un monde en soi que la psyché, c'est un monde qui est la synthèse de un rapport avec un monde imaginaire qui synthétise des informations, des images, et qui finalement synthétise toutes les réalités du vivant, les réalités du cosmique, et en même temps des réalités métaphysiques que l'on découvre à travers tout ce qui s'exprime dans la pensée ou dans l'imaginaire humain. Donc, pour la tradition ancienne, il y avait le fait que le corps lui-même, il est animé par un souffle, et que ce souffle met en vie le corps, et que quand le souffle n'anime plus le corps, alors il y a le cadavre. Et donc le cadavre, c'est la dimension inerte, et on voit bien que le biologique peut être vivant, mais le biologique peut être inerte. et que donc il n'y a pas une réalité qui peut se cantonner au biologique, il y a une autre dimension qui permet de que le biologique soit en dynamique de vie. Donc cette articulation corps-âme, elle a été très très accueillie et promue dans tous les milieux spirituels, mais la considération du corps et de l'âme est encore restreinte parce que nous voyons que l'être humain n'est pas simplement un être biologique, il n'est pas simplement non plus un être biologique animé par une âme et par une psyché et par un souffle de vie, mais il est aussi un être qui est capable de prendre conscience de ses réalités corporelles, prendre conscience de ses états d'âme, prendre conscience de processus qui se déroulent en lui. Donc il y a une capacité dans l'être humain qui est capable de poser un regard sur les réalités qui le concernent, et que même bien plus encore, l'être humain est capable de se voir en train de faire quelque chose. Il a une capacité autoréflexive. Pour les anciens, ils ont fait la distinction au sein de l'âme d'une capacité de prise de conscience des états d'âme, et cette capacité de voir, de percevoir, capacité autoréflexive, c'est ce qu'ils ont nommé l'esprit, qui vient d'une terminologie grecque, nous. Voilà. Donc, nous sommes des êtres biologiques, nous avons aussi tout un monde intérieur qui nous habite, et c'est ce qu'on appelle la psyché, mais nous avons aussi des capacités de prendre conscience, de prise de conscience, et ces capacités de prise de conscience sont inhérentes à l'être humain, elles sont absentes dans le milieu animal, c'est ce qui nous caractérise d'une manière spécifique, et nous savons comment, dans nos vies, les prises de conscience nous aident à ouvrir notre horizon, aussi à faire des liens, à mettre en relation certaines informations ou certaines expériences vécues qui nous permettent d'entrer dans une certaine intelligence, parce que l'intelligence que nous avons des situations, que nous avons dans les relations, c'est la capacité à faire du lien entre les expériences passées et les expériences présentes, et aussi à faire du lien entre différentes réalités que l'on peut éclairer par le fait qu'il y a des similitudes et des choses qui s'éclairent l'une l'autre. Et ainsi, il y a une capacité intelligente en l'être humain par le fait, premièrement, de la prise de conscience et par le fait, deuxièmement, d'établir des liens entre des réalités totalement différentes, mais qui ont des similitudes au niveau symbolique au minimum. Donc, nous avons ici toute une approche corps-âme, esprit, et pour la tradition biblique, il y a une autre réalité qui vient, très marquée dans la tradition hébraïque, c'est le fait que l'être humain est un être qui est en voie de réalisation de lui-même, et qu'il n'a pas été créé parfait, comme le dit très bien saint Irénée de Lyon au IIe siècle, mais en vue de la perfection. Il n'a pas été créé accompli, mais en vue de l'accomplissement des potentialités qu'il porte en lui, donc est un être inachevé, en voie d'achèvement, et nous avons à compléter ce que nous sommes par un chemin personnel qui passe évidemment par des prises de conscience, qui passe aussi par la disposition à s'ouvrir pleinement au vivant pour finalement devenir pleinement vivant, pleinement aimant, pleinement conscient, et nous savons comment l'expérience, la maturité intérieure nous permet effectivement de devenir des êtres qui ouvrons notre horizon, et donc il y a tout un processus ici de spiritualisation, et je fais appel ici à un mot grec qui n'est plus le nous, qui est le pneuma. Et le pneuma renvoie à la rouar hébraïque, qui dit que nous sommes en processus de spiritualisation, de dynamisation pour devenir de plus en plus vivants. Voilà, ainsi, nous avons déjà une perspective anthropologique.
RCF.
Nous reprenons dans le cadre de nos émissions RCF Soins Spiritualité Calvados-Manche notre conversation avec le père Philippe Dauté qui, dans un premier temps, nous a bien décrit les correspondances de complémentarité qui font l'homme debout, l'homme complet, l'homme réalisé, l'homme finalisé, qui est l'association entre le corps et l'âme avec l'aspect du souffle de l'âme, cet aspect à la fois biologique et psychologique, cette subtilité de l'âme qui peut réaliser une auto-réflexion sur ses pensées avec ce qu'on appelle une prise de conscience. Mais pas que ça, puisque, comme nous le savons, dans l'anthropologie ternaire, il y a l'esprit qui vient parachever la création de l'homme dans ce qu'on pourrait appeler cette nouvelle naissance, avec le pevma, comme le disait le père Philippe, qui fait qu'on devient vivant, aimant et parfaitement conscient. Alors, dans ce deuxième temps, le père Philippe va nous parler des interrelations entre le corps, l'âme et l'esprit.
Tout ce qu'on vient de dire ici sur corps, âme, esprit et le fait qu'on s'arrête en anthropologie est fondamental parce que selon la vision que l'on a de l'être humain, si on le considère uniquement comme biologique ou que corps, âme ou bien corps, âme, esprit, les implications vont être très différentes, notamment sur le registre du soin à la personne, alors nous allons nous situer d'une manière différente. Il est évident que si un médecin ne voit que la dimension biologique dans l'être humain, alors il va être plutôt dans une opération mécanique vis-à-vis de cet être humain. S'il y a une dimension de la psyché, alors le dialogue, la relation avec la personne qu'il a en face de lui va être importante et doit être prise en compte. Et puis, s'il y a la dimension de l'esprit, alors il s'agira aussi de pouvoir communiquer aux patients, les protocoles qu'on lui applique, parce qu'il est doué d'intelligence, d'une part, et puis il est conscient de la réalité qu'il vit, donc c'est important de l'informer aussi sur la réalité, en tout cas diagnostique, et puis la réalité clinique qui le préoccupe au premier degré. Donc on ne fera pas les choses à son insu, mais on va l'impliquer. Donc on voit bien ici que dans les soins, selon la vision anthropologique que l'on a, la relation médecin-patient, infirmière-patient ne sera pas la même et c'est pourquoi il est important de toujours resituer une certaine anthropologie. Voilà. Donc maintenant les relations, eh bien nous sommes en devenir, nous avons dit, et si nous sommes en devenir, ça veut dire que nous avons à actualiser des potentialités qui sont pleinement en nous. Ce qui est à advenir n'est pas extérieur. Il est une richesse non encore vue, non encore regardée en nous, qui par le fait de la prise de conscience, peut nous amener à intégrer ces forces de vie, ces puissances de vie qui sont en nous, pour les vivre pleinement et ainsi trouver un plein épanouissement dans son corps, dans son âme, dans son intelligence, et accéder à la plénitude de soi-même, qui est bien la finalité, en tout cas spirituelle, de l'existence humaine, et que par rapport à cela, eh bien, nous sommes en responsabilité de ce que nous allons devenir. Soit nous mettons en mouvement ces forces de vie, ces capacités que nous portons en nous, soit nous ne les mettons pas en mouvement. Mais il faut préciser à ce moment-là, et ça c'est très important, que si nous ne mettons pas en mouvement les forces de vie, on dira d'une manière évangélique, nous ne faisons pas fructifier nos talents, ce que nous ne faisons pas fructifier, ce que nous ne voulons pas regarder en nous, va agir en nous, à notre insu, et nous faire faire ce qu'on ne veut pas faire. Autrement dit, nous sommes des êtres vivants, et la vie qui n'est pas mise en mouvement, qui n'est pas remise dans une dynamique d'échange avec l'autre, va refouler en pulsions mortifères en l'être humain, et ainsi devenir l'occasion, quelquefois, de la maladie, ou tout au moins va être là l'occasion de dysfonctionnement intérieur, ce qui fait que nous avons à prendre en main notre propre vie et prendre en main toutes les richesses que nous portons en nous si nous ne voulons pas qu'elle se retourne en nous contre nous, comme le dit l'apôtre Paul.
Oui, c'est très intéressant ce que vous nous dites, Père Philippe. Si j'ai bien compris, nous avons dans nos émissions Soins Spiritualité pointé du doigt l'obsession médicale sur le biologique, sur le corps. Parfois, même souvent, au détriment de ce que vous évoquez, comme l'âme, qui est l'aspect psychique de la personne, le psychisme, qui est son émotion, ses sensations, et ce qui l'a fait vivre par ses capacités d'auto-réflexion et de prise de conscience. Parfois, on se dit que le monde médical aurait intérêt à prendre en compte cette deuxième dimension-là, de façon à avoir devant lui non seulement un corps, mais un corps habité par une personne pensante. Mais alors, vous venez de nous dire qu'il y a une troisième dimension, qui est une dimension du spirituel, qui est une dimension de l'esprit, qui est une dimension qui n'est pas acquise comme ça d'emblée, mais qui est due rapport de notre liberté et de notre responsabilité à aller l'atteindre, et que dans cette troisième dimension, qui est la dimension de l'esprit, il existe des énergies de vie qui, si elles ne sont pas prises en compte, si elles ne sont pas entendues, peuvent venir de façon rétroactive sur l'aspect psychologique de la personne, provoquer un certain nombre de troubles. On pourrait parler de psychologie religieuse ou de psychologie spirituelle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je ne dirais pas psychologie religieuse ou psychologie spirituelle, parce que ça concerne tout un chacun, qu'on soit religieux ou pas, premièrement. Deuxièmement, par le fait que nous sommes investis d'énergie de vie, qu'on soit laïque ou chrétien ou bouddhiste ou quelle que soit la religion. Et nous avons à devenir conscients de ces énergies de vie, car tant qu'elles cheminent en nous, sans que nous en soyons conscients, elles agissent en nous malgré nous. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul d'une manière claire en Romains chapitre 7. « Alors, je ne fais pas le bien que je veux, car nous avons l'aspiration à vivre des relations bienveillantes les uns avec les autres. Nous voulons vivre des relations épanouies les uns avec les autres. Et donc, nous voulons le bien. » Je pense et j'ai la conviction que chaque être humain aspire au bien. Mais nous voyons bien qu'il y a des réalités qui disent le contraire de ça, qui viennent contrarier ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et il dit, alors ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors il faut dire, c'est quoi le péché ici ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une instance qui œuvre en moi, à mon insu, et qui déborde ce que je voulais faire consciemment pour me faire dire des choses ou faire des choses que je ne voulais pas faire et je voulais pas dire. Donc, il y a un processus ici qu'on doit bien regarder, c'est que toutes les capacités de créativité, d'inventivité ou bien toute le rayonnement du cœur qui n'est pas exprimé peut refouler dans des frustrations, dans des mésestimes de soi ou des valorisations de soi qui deviennent des pulsions mortifères en nous où on s'accuse dans le processus et le registre qu'on connaît très bien, la culpabilité, en disant « j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela » et finalement on en vient à des pensées négatives sur nous-mêmes.
CF.
Nous reprenons notre émission Soins spiritualité, RCF Calvados Manche. Je suis avec le père Philippe Dauté, qui dans le deuxième temps de cette émission nous a abordé la complexité complémentaire des interrelations entre le corps, l'âme et l'esprit. Et on avait conclu en disant que on était là à la porte d'une explication sur ce qu'est au fond la personne en tant que telle. Qu'est-ce que c'est que cette personne dont vous parlez, Père Dauté ?
Donc la personne n'est rien semblable à l'usage qu'on en fait habituellement. D'ailleurs, on emploie le terme de personne, de respect de la personne, mais aussi on dit, quand il y a pas une âme dans une pièce, on dit « il n'y a personne ». Donc ça paraît contradictoire. D'autre part, on confond beaucoup dans notre usage le fait de la personne et de l'individu. Or, je dois faire une distinction théologique importante pour ne pas confondre deux réalités qui n'appartiennent pas au même domaine. L'individualité, la réalité indivise, selon le grec, c'est atomos, c'est-à-dire ce qui n'est pas sécable. Ça veut dire que il y a bien une réalité de l'être humain qui est entière. Et chaque être humain a en lui toute la dimension de l'humanité. C'est-à-dire, toute la réalité humaine est en chaque être humain, et nous sommes chacun pleinement des humains, dans notre corps, dans notre psyché et dans notre esprit. Nous avons tous ces capacités. Donc ça, c'est l'individu. Et puis, la dimension... Donc l'individu est un membre de la société, il fait nombre avec les autres, et il est une réalité qui doit trouver sa place au milieu du monde, au milieu des autres, il doit un peu jouer des coudes par rapport aux autres. Donc il est souvent en comparaison ou en opposition avec l'autre. On est sur un certain registre. Mais de point de vue théologique d'un point de vue essentiel, la dimension de la personne est tout à fait autre. On dit autre chose. On dit, en parlant de la personne, une dimension du mystère qui préside, d'une part, à l'unicité de chacun, qui fait que chacun est unique au monde, et cette unicité, elle se reflète dans le visage unique, dans un mode de comportement unique, dans une signature génétique unique, et dans une singularité qui est incomparable, qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera jamais après nous. Donc, premièrement, l'unicité. Deuxièmement, ça nous met en face de la dimension d'altérité. C'est-à-dire, je suis autre radicalement à quiconque. Autant il peut y avoir une similitude des individus qui peut être soumis à statistiques, autant Il ne peut pas y avoir de statistiques vis-à-vis de la personne parce que la personne nous échappe. Et c'est en ce sens-là que nous parlons de mystère. Elle échappe à l'emprise des statistiques et de toutes les études qu'on peut faire sur elle, car elle relève d'un autre monde. Pour nous les chrétiens, la personne est une réalité éternelle, fondée en Dieu de toute éternité, qui nous appelle, qui nous nomme. Notre nom est inscrit avant la fondation du monde, je rappelle la Bible ici. Notre nom est inscrit sur un caillou blanc, une pierre blanche, nous dit l'Apocalypse, et nous connaîtrons ce nom, ce que nous sommes, qui je suis, quand nous le serons devenus. C'est ça le mystère de la personne, qui est transcendant par rapport aux réalités du monde et qui permet donc une liberté par rapport au monde, puisque si la personne est transcendante, ça veut dire qu'elle échappe à toute emprise des conditionnements, des déterminismes, toute emprise génétique du monde, et ça veut dire qu'elle a une capacité de transcendance et donc d'amener à une mutation de tout l'être, corps, âme, esprit, vers son plein accomplissement en Dieu. Autrement dit, la personne, c'est en même temps le Fils de l'homme, pour rappeler ce que disait le Christ à propos de lui-même, qui est en même temps la voie elle-même vers la dimension de fils ou fille de Dieu que nous sommes déjà en tant que personne.
Donc est-ce qu'on pourrait, comme on l'avait dit tout à l'heure, penser que l'individu, c'est un sort qui nous est donné, on n'a pas besoin de le rechercher, on est là, mais qu'il y a un saut de passage de l'individu à la personne qui est celui de la prise de conscience personnelle avec sa liberté, sa responsabilité, au mystère que vous venez d'évoquer, qui est celui de l'unicité de chacun, de l'altérité et de cette réalité éternelle qui est une forme de conversion sur l'essentiel.
Voilà, et c'est une conversion sur l'essentiel, ce qui veut dire de ce point de vue-là, la voie spirituelle de chaque être humain, et en particulier évidemment du chrétien, c'est de remonter vers son propre principe, c'est-à-dire de correspondre à l'appel de Dieu pour moi. Correspondre à l'appel de Dieu pour moi. Et cette correspondance à l'appel de Dieu pour moi signifie ici l'avènement du « je suis ». Je suis, à l'image du Christ, une réalité unique, appelée d'une manière unique par Dieu unique, avec une vocation unique. En ce sens, je suis incomparable aux autres. Et donc, nous échappons à toutes les catégories ici, je dirais, de l'emprise socio-culturelle, et nous touchons une dimension sublime de l'être humain. Et c'est en ce sens-là où on parle, dans les soins, du respect de la dignité inaliénable de la personne, parce que cette réalité-là, elle est inscrite dans l'être humain, quel que soit ce qu'elle vit, quel que soit ce qu'on lui fait par ailleurs. On peut la contraindre, on peut même la torturer, il n'empêche que cette réalité de la personne est inaliénable. Et donc, quand on parle du respect de la personne et du droit des personnes dans le droit et dans les droits de l'homme, eh bien, nous sommes là sur une réalité transcendante, et nous sommes là sur une réalité inaliénable qu'il s'agit de respecter avant tout. Et ça rappelle aussi que la personne est un mystère et on doit prendre en compte cette dimension sacrée de la personne et cette dimension unique, transcendante, fondamentale de la personne qui nous concerne tous.
Merci Père Philippe pour cette vision d'anthropologie ternaire. Merci beaucoup pour cette introduction à l'émission de la semaine prochaine qui sera centrée sur effectivement le respect de la personne dans le soin. Vous le savez, c'est ce qui préoccupe notre émission Soins Spiritualité. Donc à la semaine prochaine. Merci.
Merci.